Europe 1, Julien Bugier.
18h31, Europe Soir ouvre la page du débat des grandes voix avec ce soir Charles Villeneuve à mes côtés, Gérard Carrérou. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Pas trop de déception dans la voix messieurs, Charles Villeneuve?
Non.
Non?
Non.
Vous n'êtes pas déçu?
Non, je suis pas. C'est pas que je ne suis pas déçu, je suis déçu bien sûr, mais je m'y attendais, sincèrement.
Bon, vous allez nous expliquer ça Gérard?
Moi je m'attendais à rien parce que, comme vous le savez peut-être, à la différence de Charles Villeneuve qui a occupé de hautes fonctions dans le foot et qui est un passionné depuis que je le connais, c'est-à-dire
ancien quand président on du PSG.
Mais on était ici à Europe depuis 1970 pour lui, 71 pour moi, et malgré cette longue période, il n'a pas réussi à me convaincre que le foot c'était la meilleure chose du monde.
Bien, alors pour ceux qui étaient sur la Lune ou sur Mars
enfin,
hier soir,
vous savez,
on parle bien sûr, Charles.
Julien, en 98, quand l'équipe de France a été championne du monde, sacrée championne du monde avec Zidane et compagnie, eh ben à New York, où il passe ses étés, il portait le maillot de l'équipe de France.
Ah oui, j'ai agité le drapeau. Ah oui, mais ça, c'est parce que...
Souvenir d'anciens combattants. Attendez, écoutez ça, messieurs. Parce que pour ceux qui étaient, je le disais, sur la Lune ou sur Mars hier soir, on parle évidemment de la défaite du PSG face au Bayern Munich. On va écouter un court extrait de Julien Froment qui commentait le match pour Europe 1.
Il va lancer dans la profondeur. Neymar. Oh, l'arrêt. L'arrêt. Incroyable arrêt de Neuer. Papé, mais non, Kylian, faut tirer là-dessus.
Bah oui, Kylian, faut tirer là-dessus. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. C'est l'anglais Gary Lineker qui est l'auteur de cette phrase mythique. Et ça, c'est encore confirmé hier soir, Charles Villeneuve. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du PSG?
Moi, pour moi, ce qui est en cause, si vous voulez, c'est plus profond que ça. C'est la politique sportive du PSG, qui est fondée sur un empilement de stars et qui ne donne pas, si vous voulez, une identité collective.
Il n'y a pas d'âme, vous voulez dire?
Non, il n'y a surtout pas de collectif, pas de véritable.
Ouais.
Et vous avez affaire à une équipe dont la force est l'identité et le collectif, et surtout animée par de très grands joueurs de football qui sont les dirigeants du club, que ce soit avant Beckenbauer, ensuite ONS... Ensuite, à l'heure actuelle, Rummenigge, et bientôt, ce sera Oliver Kahn, le goal du Bayern de Munich, qui a été champion du monde, qui a été champion d'Europe, etc. etc. Dans cette équipe d'Allemagne, hier, je vous avais dû remarquer qu'il y avait au minimum 5 à 6 joueurs allemands. Mmh. Et ça, si vous voulez, la présidence, les dirigeants, ils veillent attentivement. Et alors que, finalement, qu'est-ce qu'il y avait de parisien dans l'identité parisienne du Paris Saint-Germain, ne tient pas à Neymar, ne tient pas même pas à Mbappé, et tient à Kimpembe, le seul joueur sorti du centre de formation, le seul petit, si vous voulez, poussin qui a été détecté, qui a été formé à Paris.
Alors, vous précédez un peu mes questions, Gérard Carrérou, je vais la poser à vous. Est-ce qu'en cas de victoire, cette victoire aurait été une victoire de la France ou une victoire du Qatar?
Oh, je crois que ça aurait été quand même... Les Français l'auraient prise comme une victoire de la France. Mmh. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas s'identifier. D'ailleurs, pour ça que j'ai regardé le match. Moi, je ne regarde pas les matchs locaux ou même de l'équipe de France. L'équipe de France, quand elle joue à l'étranger ou quand elle reçoit une équipe nationale, je regarde. Mais donc là, j'ai regardé, c'était un peu France-Allemagne, si vous voulez.
Oui.
C'est comme ça que je l'ai pris.
Oui.
Et bon, à tort peut-être, mais j'en ai tiré qu'une impression. C'est qu'il y avait une équipe en face qui jouait très collective et avec un formidable gardien de but. Et puis en face, notre équipe de France, entre guillemets, notre PSG, avait deux cadors que tout le monde attendait évidemment au tournant. Mais malheureusement, les deux cadors, ils n'ont pas réussi à franchir le mur des Panzer Division de Munich.
Alors ce que disait Charles Villeneuve est intéressant parce que celui qui marque pour le Bayern, c'est Kingsley Coman qui est entré à 9 ans au centre de formation du PSG et puis qui s'en va ensuite en Allemagne et c'est lui qui fait que le PSG hier perd le match. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à garder nos talents en France, à l'image d'ailleurs de tout un tas de secteurs. Hein. Ça vaut pour le football mais ça vaut pour d'autres secteurs.
Ça tient à plusieurs raisons. D'abord la première raison en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, c'est que la masse salariale est telle, si vous voulez, qu'on laisse partir et parfois qu'on pousse dehors même, ce qui a été le cas d'ailleurs de Kingsley Coman, qui ne voulait pas quitter, qui ne voulait pas partir. Il ne faut pas oublier qu'il a été de toutes les sélections d'équipe de France dès l'âge de 16 ans, tellement il était doué par son dribble et par sa vitesse. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer une chose, c'est que le coach de Bayern, n'avait pas titularisé pour tous les matchs de qualification Coman, mais il l'a fait pour la finale parce qu'il avait bien remarqué la vulnérabilité de la défense, et notamment à droite, du Paris Saint-Germain. C'est ça un coach.
Je crois que c'est Anelka qui avait le premier fichu le camp et claqué la porte du centre de sélection après avoir été recruté au Paris Saint-Germain.
Non, il y en avait d'autres. Il y en avait bien d'autres de toute façon, mais Anelka était le plus connu.
Oui. Comment les clubs français peuvent-ils gérer leurs talents et les garder chez nous en France pour qu'ils participent à l'histoire des clubs? Puisque c'est aussi ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un enchevêtrement de stars recrutées à prix d'or, mais qui ne font pas l'âme d'une équipe.
Non, parce que quand les individualités, comme ça a été le cas dimanche soir, si vous voulez, ne sont pas au rendez-vous, il faut que le collectif prenne le relais. Et c'est ce qui a manqué. Il ne faut jamais oublier, de toute façon, juste un détail, Zidane et à son agent Alain Migliaccio, grand agent de football, s'il en est, m'ont toujours appris que derrière un grand 10, il faut un grand 6. Derrière Zidane, il y avait Makelele au Real de Madrid. Et derrière Platini, il y avait Jean Tigana. Il y avait aussi Luis Fernandez. Et ça, vous ne l'avez pas.
Ouais.
Vous ne l'avez pas au Paris Saint-Germain.
T'as pas de taulier.
Alors, en ce qui concerne les clubs français, il ne faut pas oublier que les clubs français n'ont pas les moyens financiers qu'ont les Anglais, qu'ont les Allemands, qu'ont les Italiens, quand les Espagnols.
Hmm. Donc, oui, c'est-à-dire qu'on peut acheter deux stars. Enfin, je veux dire, ils peuvent acheter deux, trois stars. Disons superstars, parce que les stars, elles sont toutes des stars.
Non, en général, les stars, on s'en débarrasse, on les vend quand ça commence.
On fait de l'argent
la
avec
graine de stars. Si tu veux, bien auparavant, dans les années 60-70, il y a un garçon qui s'appelait Boulogne et qui a construit les centres de détection et de formation des clubs français qui n'ont pas d'actionnaires, qui n'ont pas de mania, qui n'ont pas de milliardaires, si vous voulez, comme le sont les industriels allemands qui se mêlent de foot et qui investissent dans le foot, ou les Anglais, ou même les Italiens, évidemment, et les Espagnols. En France, non. Donc, ils ont compensé ça et ils ont créé un centre, des centres de formation. Il ne faut pas oublier que 650 footballeurs français jouent à l'étranger.
Alors, on va continuer d'en parler dans un instant, Charles Villeneuve, juste après la pause. Et puis, on évoquera également ces nouvelles violences à Paris qui posent la question de l'autorité de l'État. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 18h40 avec toujours Charles Villeneuve et Gérard Carrérou pour le débat des grandes voix d'Europe Soir. Et on parle football après cette défaite, j'allais dire tragique défaite. Ce n'est pas une tragique défaite, mais c'est une défaite voilà,
qui fera grandir.
Qui fera grandir peut-être la prochaine fois les joueurs du PSG. Une dernière question sur l'aspect purement sportif, Charles Villeneuve, avant de passer à ces violences malheureuses qu'on a vues hier un peu partout dans Paris. Vous seriez, vous, à la tête du PSG, là, ce soir. Quelle décision vous prenez demain?
Mais d'abord, si vous voulez, il y a évidemment des décisions brutales, mais il y a aussi des décisions constructives. Évidemment, emprunter au marketing, c'est très bien, mais la construction d'une équipe passe aussi, si vous voulez, par vraiment beaucoup de temps pour construire une identité. Et moi, je ne pense pas que le directeur sportif à l'heure actuelle du Paris Saint-Germain ait cette préoccupation, notamment Leonardo, ni le coach. Le coach, hier, finalement, il était somnolent.
On a vu d'ailleurs que le président Nasser a été assez froid avec Thomas Tuchel, l'entraîneur.
Bah oui, mais si vous voulez, quand on n'a pas de
avec Tourelle,
on n'a pas de défense suffisante, notamment à droite hier avec l'Allemand Kerel qui l'a fait venir lui-même et qu'il est aussi déficient quand on lui met Kingsley Coman, il est évident que on n'est pas très content au niveau de la direction.
Alors, on parlait de la défaite des Parisiens il y a quelques secondes, mais avec une double peine aussi, les violences qui ont émaillé la fin du match à Paris, 150 gardes à vue, des scènes d'émeutes Porte de Saint-Cloud sur les Champs-Élysées. De quoi cette violence, Gérard Carrérou, est-elle le symptôme?
La montée de la violence, elle est générale en France depuis maintenant plusieurs années, mais notamment...
C'est avéré, ça?
Ah oui, les chiffres le montrent.
Parce qu'il y a le sentiment et puis il y a la réalité.
Oui,
mais
je crois que les chiffres le montrent, les chiffres de la police même, du ministère de l'Intérieur le montre et le ressenti bien. Alors le ressenti, j'en parle même pas parce que tout le monde est effectivement persuadé que la violence augmente. Mais là, on avait l'impression hier soir, bon, c'est après tout un match perdu pour Paris et on a quand même l'impression qu'à partir de minuit, les loups sont entrés dans Paris, pour reprendre la chanson. Hein, les loups
mais
sont entrés
ça
dans Paris.
Ça n'a pas toujours été le cas avec
non,
les supporters.
Non, alors c'est pas vrai.
Il y a le loup illégalisme.
Alors il y a une partie des gens de la gauche, des humanistes, etc., qui vont vous dire « Mais c'est toujours pareil, ça a toujours été... » C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Et il y a eu une phase violente du football.
Et la bascule, vous la situez quand?
La bascule, c'est toutes dernières années. Je pense que les violences, on en avait beaucoup parlé, les violences des Gilets jaunes. Et je pense qu'il y a eu un tournant à ce moment-là. Parce que c'est vrai que le Gilet jaune, on voit un certain nombre de dégradations, de monuments publics, etc. Et je pense que ça n'a fait qu'empirer depuis. Mais si vous voulez qu'on dise pas que c'était tout le temps comme ça, il y a eu les hooligans en Grande-Bretagne. Madame Thatcher a pris effectivement les décisions qu'il fallait prendre. Il y a eu des tentatives en France pour essayer de faire la même chose qui n'ont pas vraiment réussi. Mais là, c'est bien au-delà. C'est plus des supporters. C'est la racaille qui descend dans Paris.
Alors, on va élargir le propos sur l'ensemble des violences qui, c'est vrai, ont secoué le pays, notamment cet été, depuis la rentrée. Charles Villeneuve, peut-être une question sur ce qui s'est passé hier soir à Paris avec les supporters qu'on peut ne pas appeler des supporters, mais qui se revendiquent comme tels du PSG. Est-ce que ces violences sont propres aux supporters de Paris? On se souvient des violents heurts en 2013 qui avaient éclaté, souvenez-vous, au Trocadéro lors des célébrations de titres de champion de France. Il y avait eu 30 blessés à l'époque. Est-ce que, quand les supporters du PSG sont dans la rue, bah, ça part en cacahuète?
C'est parti en cacahuète puisqu'ils se sont entretués. Il faut se souvenir de ça, notamment. Hein, ce sont des supporters parisiens qui avaient tué un autre supporter parisien. Mais là, je ne pense pas que ce soit des supporters parisiens. Je crois que c'est en marge, si vous voulez. Ça vient d'ailleurs, ça vient des quartiers, notamment d'un certain nombre de départements et surtout de Seine-Saint-Denis, etc. Vous savez, en 20 ans, rappelez-vous, on est passé des sauvageons de Jean-Pierre Chevènement à l'ensauvagement de Gérard Darmanin aujourd'hui. Mais ce qu'il faut souligner, si vous voulez, c'est que en 20 ans, aucune politique n'a réussi. Aucune. Quand vous lisez les notes de police, vous posiez la question tout à l'heure à Gérard en disant « mais c'est toujours comme ça, les matchs et tout ça ». Il y a une note de police et de gendarmerie que j'ai là, qui a été faite et dressée du lundi 27 juillet au mercredi 29 juillet. Eh bien, il faut la lire, cette note. Il faut voir le nombre de cambriolages, de chauffards, de tags anarchistes, de mains tranchées à la machette, mais de violences policières, dans simultanément, dans la même nuit, 16 villes en France.
Mais pour revenir sur les violences survenues hier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? 3000 policiers et gendarmes déployés dans Paris, des mesures extraordinaires, les Champs-Élysées piétonnisées. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus?
Je vais vous répondre à ça. La police, ce sont les forces de l'ordre en général, pas seulement la police, aussi bien les gendarmes mobiles, les compagnies de sécurité, etc. Ce sont des gens qui, comme les militaires, ils reçoivent des instructions. Oui. Ce ne sont pas des gens à qui on dit « vous prenez l'initiative, vous voyez un groupe ici, vous allez l'interpeller, etc. » Ils ont des ordres. Or, le commandement, depuis, ça c'est une politique qui dépasse, même qui était déjà avant Macron, avant la présidence Macron, le commandement a très clairement donné des instructions pour qu'on ne protège plus les biens. Alors les biens, on peut cramer des bagnoles, on peut casser des bouts, et qu'on évite le moindre blessé dans les manifestants, c'est l'éternel syndrome.
Vous êtes sûr de ça, Gérard ?
Mais bien sûr, les ordres, les policiers, demandez aux syndicats de policiers, ils l'ont dit publiquement sur des plateaux de télévision, ils disent, on nous a demandé, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier ? C'est exactement ça. On dit, les gens, les pauvres malheureux qui se trouvaient pris, les commerçants, etc., on dit, mais on voyait les policiers là, ils n'avaient pas manifestement d'ordre, ils ne sont pas intervenus. Il y avait 3000 policiers, mais si vous ne leur donnez pas l'ordre de bouger, ils ne bougent pas. Et on a le pouvoir a tellement peur. Moi, je partage l'opinion d'Onfray. Le philosophe Onfray a dit des choses très dur. Il a dit ce matin, on achète la paix sociale au profit d'une sorte de guerre civile. Mais on va y arriver si
alors,
on continue comme ça.
Gardez-en un peu, Gérard Carrérou, car le débat continue dans quelques secondes, 18h46. On est toujours ensemble sur Europe Soir avec les grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Y a-t-il, pour prolonger ce que vous disiez, un problème d'autorité de l'État? On en parle après la pause.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, Europe Soir, effectivement, avec toujours Charles Villeneuve et Gérard Carrérou pour le débat des grandes voix. Et on parle des violences survenues hier à Paris après le match PSG-Bayern Munich. Y a-t-il un problème d'autorité de l'État? Avec une succession d'événements très graves pendant l'été liés au respect du port du masque, le chauffeur de bus de Bayonne, souvenez-vous, le père de famille lynché dans une laverie, la multiplication des agressions d'élus locaux. Là aussi, c'est un signe inquiétant que l'application des règles peut mener à des violences. Écoutez ce qu'en disait ce matin l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, interrogé sur le sujet, était à Cannes pour une signature de son ouvrage.
C'est le problème de notre société avec l'autorité. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que sans autorité, il n'y a pas de vie possible en société. Tout le monde parle de l'horizontalité. Moi, je crois à la verticalité. Je crois au leadership, je crois à l'autorité. Cette contestation systématique de l'autorité ne peut conduire qu'à des problèmes. C'est ça qui est en cause, ce qui va bien au-delà du football.
Vous diriez qu'il y a un problème d'autorité de l'État aujourd'hui en France, Charles Villeneuve ? Plus qu'il y a 10 ou 15 ans sous Nicolas Sarkozy, parce qu'il a eu son lot d'émeutes urbaines,
absolument,
de violences.
Mais je crois que ça a commencé largement, si vous voulez, justement, dans la période de 2007-2012, un glissement vers l'absence de respect de l'autorité, d'abord.
Et comment vous expliquez ça ?
De défi, il y a un glissement, tout devient prétexte, si vous voulez, un déchaînement à l'heure actuelle. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez du chauffeur de bus à Bayonne, de la laverie automatique, avec ce père de famille qui, devant ses enfants, se fait battre à coups de batte de baseball. Donc, ce sont des faits.
Mais est-ce que ça n'est pas le prisme des réseaux sociaux et de la vidéo permanente, puisqu'on est filmé en permanence aujourd'hui. Donc, l'émotion n'est pas la même. Ou est-ce que ça repose sur une réalité des chiffres ?
Non, ça repose sur une réalité des chiffres, d'abord. La France se déchire, se disloque, comme le décrit Jérôme Fourquet dans L'Archipel français.
Oui, oui.
Il le décrit très bien. Il y a des fractures qui se sont amplifiées. Est-ce que la crise sanitaire a accéléré ces fracturations ? Je ne sais pas. Si vous voulez, là, évidemment, il faudra regarder les statistiques. Mais ce qu'il y a d'évident, on dit toujours, et là, je parle devant un spécialiste, Gérard Carrérou, on dit toujours qu'en France, on vit à rebours ce qui se passe aux États-Unis. On y est presque. Ce ne sont pas encore les émeutes urbaines américaines, mais je me demande si on ne va pas y venir.
Oui, mais alors même les émeutes urbaines américaines que j'ai vécues dans les années 60 et plus tard, j'ai jamais vu, et on n'a jamais vu d'image à la télévision où on voit des bandes qui se mettent à attaquer une voiture de police, comme on le voit maintenant. Il y en a eu qui ont brûlé, pas hier, mais dans d'autres circonstances. Et on a vu là des gens qui carrément s'attaquent à des véhicules de police. Et quand on dit, mais ça arrive un peu, c'est les réseaux sociaux, pas du tout. Est-ce que vous avez eu les mêmes violences hier dans d'autres capitales européennes, à commencer par l'Allemagne ? Vous n'avez
c'est
pas eu de violence ?
C'est pour ça que vous posez la question des supporters du Paris Saint-Germain.
Donc c'est une violence française. Il ne faut pas essayer de se défausser en disant la société est violente, etc. C'est une violence très française. Je vous parlais de l'absence de consignes. L'absence de consignes, elle traduit une forme de désarroi de l'État qui n'ose pas prendre le risque qu'il y ait effectivement des blessés du côté des manifestants. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On terrorise qui ? Les policiers. On terrorise les policiers en les accusant, vous vous souvenez quand même de Castaner, en disant avec eux, maintenant, on va prendre éventuellement au moindre soupçon. Et c'est du coup...
Mais revenir à une lecture politique, pourquoi cette question de la sécurité est le point faible d'Emmanuel Macron, alors que, encore une fois, des violences et des émeutes urbaines, il y en a eu avec ses prédécesseurs, François Hollande, Nicolas Sarkozy et les autres ?
Parce qu'il a probablement, il a attaché beaucoup d'importance à l'économie, et d'ailleurs il avait des résultats avant la crise de l'épidémie, avant la Covid. Il a attaché de l'importance à l'Europe, il a attaché de l'importance... Il n'a pas attaché l'importance qu'il fallait, on l'a souvent dit d'ailleurs, ici à Europe, il n'a pas attaché l'importance, si vous voulez, à ce côté du régalien, c'est-à-dire l'autorité de l'État. L'autorité de l'État et encore l'autorité de l'État. Je pense qu'il s'imagine que ça vient tout seul, l'autorité de l'État. Eh bien non, il n'y a plus d'autorité respectée dans l'État aujourd'hui.
Et comment on restaure l'autorité de l'État, Charles Villeneuve ?
Alors écoutez, moi je crois qu'il est victime aussi de la disparition de deux piliers, justement, de l'État, de la discipline, de l'autorité de l'État. Le premier pilier
étant... Le service militaire ?
Le service militaire, absolument.
Vous savez que vous alliez me dire ça.
C'est un manque pour éduquer aux valeurs simples, si vous voulez, de loyauté, de fidélité, évidemment du patriotisme aussi, ça compte. Tous ceux qui ont fait le service militaire, on l'a vu même dans les jeux, si vous voulez, de télévision... avait un autre comportement.
Je n'ai pas fait le service militaire, j'ai le respect de l'État, Monsieur Villeneuve.
Oui, mais ça arrive. Peut-être avez-vous été éduqué dans le respect de l'État.
Je le pense.
Mais ce n'est pas toujours justement le fait. Car le deuxième pilier, si vous voulez, justement, du respect de l'autorité de l'État, c'est aussi l'école. Or, l'école qui ne joue plus le rôle de l'émancipation par le savoir. Sylvain Faure, qui était le speechwriter, c'est-à-dire
la
celui
plume.
Qui écrivait les discours,
la
plume
Macron.
Du président de la République, l'a très bien expliqué un dimanche matin sur Europe 1. Bon, et cette disparition, si vous voulez, de l'autorité même des professeurs, qu'on a sous-estimé, qu'on a mal payé, qu'on a diminué par rapport aux autres catégories sociales, eh bien, l'État se trouve aujourd'hui assez dépourvu et marque son impuissance par des discours, si vous voulez, martiaux, des discours, évidemment, où on essaie de, de dire que c'est pas possible, c'est insupportable, mais c'est pas suffisant, car il n'y a plus qu'une seule politique, et elle est insuffisante, c'est la politique policière. Mais une politique policière qui ne va pas jusqu'au bout de son travail de police
et de gendarmerie.
Pour revenir
sur le constat, c'est aussi ce qu'a révélé Gérard Carrérou, la crise des Gilets jaunes. Au-delà des violences, quand on remet en cause par exemple l'élection au suffrage universel d'Emmanuel Macron, c'est une forme d'autorité, une forme d'affaissement de l'autorité.
Oui, il y a un affaissement général. Alors, si vous voulez me faire dire qu'il y a un affaissement général de l'autorité dans ce pays, oui, c'est vrai que ça commence dans les familles. Hein, l'autorité, combien de parents se font renvoyer par des gamins de 12 ans il y a des pauvres mamans qui n'arrivent plus à se faire obéir dans les familles. Avant, on se faisait obéir dans les familles.
En même temps, la schlag, c'était pas tip-top.
Non, mais j'ai pas parlé de la schlag. Je dis simplement, l'autorité, c'est pas forcément la schlag, hein, ou la mitraillette, ou les morts. Non, l'autorité, ça se mérite. Et je pense simplement que le gouvernement, là, moi, je mettais des espoirs dans Darmanin, parce que Darmanin, c'était un peu l'école Sarko. C'était un apprenti Sarko. Il avait fait ses classes avec lui. Je pense qu'avec Darmanin, et malheureusement je constate qu'hier soir, Darmanin il a raté sa bataille, son baptême du feu, je voulais dire, ou son baptême du foot.
En tout cas, il est très bon dans les coups de menton.
Très bon dans les coups de menton, mais il va falloir maintenant qu'il fasse un
Darmanin
peu plus que les coups de menton.
Darmanin ne peut pas tout gérer.
Alors, et la justice ne fait rien.
Il a dit que 108 gardés à vue sont à la disposition de la justice. Oui, on attend maintenant, si tu veux, combien d'entre eux seront effectivement jugés, combien de comparutions immédiates, combien de condamnations à une peine de prison, combien d'assignations à résidence avec passé électronique, voilà. Et au final, combien de peines effectivement exécutées.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse judiciaire, d'habitude.
Merci, merci Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, merci pour ce débat des grandes voix. Du lundi, on marque une pause, 18h57, on marque une pause. Voilà, on est bon dans le timing avec le journal d'Isabelle Millet à 19h qui nous retrouve ici en direct et en plateau.